arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Simon Liberati, bonjour.
Bonjour.
Dans votre nouveau roman, Performance, vous nous ramenez dans l'Angleterre des Rolling Stones à la fin des années 60. La reine Elisabeth avait 40 ans hein, quand Mick Jagger, Keith Richards ont été arrêtés chez eux pour possession de drogue en compagnie de Marianne Faithfull, la petite amie de Mick Jagger, nue sous une couverture en fourrure. En quoi l'Angleterre était-elle différente à l'époque ?
Elle était différente parce qu'il y avait une espèce de flottement entre quelque chose d'extrêmement rigide qu'on imagine et qui était encore plus fort à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait encore les conventions étaient très présentes. Quand on voit le juge, ça doit toujours être le cas aujourd'hui, qui a condamné Keith Richards à l'époque, il porte toujours la perruque qu'on portait au XVIIIe siècle. Et puis toutes les conventions qu'on connaît anglaises. Et en effet, cette arrivée de la musique rock et des choses extrêmement tout à coup très violentes et de la drogue qui commençait à faire beaucoup parler d'elle. Il y avait un drug squad qui avait été créé, une brigade spéciale pour la drogue qui poursuivait toutes les pop stars. Donc on était dans une ambiance un peu paranoïaque.
Ça fait plusieurs fois que vos romans nous ramènent à la fin des années 60, que ce soit California Girls, Jane Mansfield 1967 ou Les Démons. Pourquoi toujours cette époque? Vous n'aviez même pas 10 ans.
C'est peut-être pour ça. Vous savez, les choses qui fascinent sont souvent les choses qu'on a vues quand on était presque enfant et auxquelles on n'avait pas vraiment accès, mais qui étaient à côté de vous. Et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire, c'est une période qui est juste avant vous. Et celle-là était particulièrement spectaculaire. Moi, j'étais enfant, j'habitais du côté du Flore et je passais devant à l'époque avec papa et maman et je voyais des choses, les gens dans la rue, etc. J'entrevoyais des choses qui étaient tout à fait qui me paraissaient absolument fascinantes et je pense que ça doit venir de là, tout simplement.
Vous n'êtes pas le seul, en effet, et comme vous le dites dans Performance, l'idée toujours la même, hein, dans toutes les séries consacrées à cette époque, c'est de montrer la fin de l'utopie des années 60.
C'est un poncif journalistique, je vais dire tout simplement, qui date, en effet, qui est la fin de l'ère du Verseau, toutes ces idées qui donnent en général pour date l'année 69. Alors, est-ce que c'est la réalité? Comme toujours, dans le mythe, il y a quelque chose qui part du réel et puis il y a quelque chose qui n'est pas réel. Je pense que le mouvement descendant avait commencé avant. J'en ai parlé dans l'autre livre que j'ai écrit sur la famille Manson. Je pense que ça a commencé vers 67. Mais en effet, c'est une période qui a pris fin et qui n'a jamais pris fin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du manager des Stones, le premier, qui s'appelait Luke Oldman, qui dit que le problème avec les années 60, c'est qu'elles ne se sont pas terminées en 69, mais qu'elles continuent toujours aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on vit dans la répétition permanente on ne bouge pas de ces archétypes et que ce soit, là je viens d'écrire un article sur Catherine Deneuve, ou que ce soit les Rolling Stones, ils sont toujours là, et pour certains, pour la plupart, Bardot encore, etc. Et c'est des choses qui sont restées très très fortes. On pensait pas à l'époque que ça allait durer aussi longtemps. Moi, j'aurais jamais imaginé, quand j'ai acheté les disques des Stones, que 50 ans après, je serais encore en train d'en parler.
Alors, Performance, votre roman, c'est l'histoire d'un vieil écrivain engagé pour écrire une mini-série sur les Rolling Stones entre 1967, l'arrestation de Mick Jagger et Keith Richards pour possession de drogue, et 1969, la mort de Brian Jones. Et c'est particulièrement intéressant, votre livre, sur notre manie, justement, de reconstituer les époques du passé, que ce soit dans des séries ou dans des biopics. Hein.
C'est très curieux. Alors, il y a cette obsession de la reconstitution qui d'ailleurs donne des choses intéressantes parce que les gens qui travaillent sur ces séries ou sur ces films parfois font un travail formidable. Donc, il y a des choses tout à fait, ils s'intéressent à des détails que les gens de l'époque ignoraient totalement, auxquels on ne faisait pas attention. Donc, il y a un développement, il y a une espèce de culture, de commentaires qui se fait par rapport à ces données qui n'ont pas bougé depuis l'époque. Et il y a aussi parfois quelque chose d'un peu ridicule, c'est le fait de vouloir absolument que les gens ressemblent. Alors, c'est vrai qu'on, pour que le spectateur adhère, il faut logiquement qu'il ressemble. Je trouve que c'est un peu forcé et que très souvent on gagnerait, je sais pas, à faire jouer par des enfants japonais les Rolling Stones ou faire des choses qui n'ont pas véritablement trop désir de ressemblance. Sinon, ça devient très vite un peu cliché et en plus, on a l'impression que si on met une moustache à l'un, il va ressembler à Hitler. Si on lui met une pipe, ce sera le même qu'il va ressembler à Sartre. Il y a un truc un peu comme ça qui m'a toujours un peu gêné dans les biopics.
Il y a aussi aussi le fait qu'on va lisser le passé pour ne pas choquer les sensibilités d'aujourd'hui, ou au contraire pour les encourager dans ce qu'elles croient. Il y a quelque chose d'un peu édifiant. Par exemple, on veut absolument que votre héros écrive une scène où Jimi Hendrix reproche à Mick Jagger de s'approprier la culture afro-américaine. Et tous les musiciens noirs dans la série doivent se montrer sympathiques, clairvoyants et politiquement justes. C'est au fond la définition même du politiquement correct à l'américaine.
Oui, et puis c'est aussi une certaine forme de racisme, il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est une sorte de... Jimi Hendrix, pour donner un exemple, a rencontré Marianne Faithfull et Mick Jagger après un concert. Je crois qu'il était défoncé, il était saoul, il s'est montré particulièrement violent et désagréable, comme peuvent se montrer n'importe quel pop star de n'importe quelle couleur dans ces genres de circonstances. Et là, c'est vrai que dans mon histoire, les gars de la série veulent surtout pas qu'il ait l'air agressif ou bourré, mais qu'au contraire, il fasse une leçon d'histoire à son alter ego blanc. Donc voilà, oui, ça, il y a un truc comme ça, il y a une tendance, on peut pas se voler la face, il y a une tendance comme ça en ce moment.
Et de même, on a un gros problème aujourd'hui avec le complotisme. On a beaucoup de mal à accepter, par exemple, l'idée que l'arrestation des Rolling Stones avec de la drogue, ça a pu être le résultat d'un complot, de la police en cheville avec la presse à sensation. Or, à l'époque, ce type de complotisme, c'était une évidence. Tout le monde était complotiste.
Bah, oui, c'est-à-dire qu'en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on consulte un peu les documents de l'époque, il y a des gens qui ont écrit, des Anglais très érudits, qui ont écrit des livres entiers sur cette arrestation, qui est quand même un micro-événement. Hein. Ils avaient presque rien sur eux, mais ça a fait beaucoup de bruit. C'est le journal, en fait, c'est un complot qui unissait à la fois la police, qui voulait donner un exemple contre la drogue, et le journal à scandale News of the World, qui avait essayé de piéger Mick Jagger, qui avait envoyé ses avocats, et donc c'est un coup monté, et ça c'est clair aujourd'hui, entre News of the World et la police des stupes. Donc c'est vrai que ça existe. Après, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de complotisme, on a l'impression qu'on parle de gens... De gens étranges.
De même, il faut absolument que Brian Jones soit une victime. Hein. Victime de la drogue, mais aussi victime de Keith Richards, qui lui a piqué sa petite amie. Victime de Mick Jagger et de Keith Richards, qui lui ont piqué son groupe. Les Rolling Stones, c'est lui qui les avait créés. Et puis en plus, ils ont fini par le virer. Au fond, Brian Jones, dans une série qu'on pourrait faire aujourd'hui sur les Rolling Stones, incarnerait la pureté des années 60, alors que les Rolling Stones vont devenir une énorme machine commerciale, donc corrompue.
Oui, alors ça, c'est vraiment le cliché des clichés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez Brian dans sa vie, c'était une petite brute. Hein. Il a défoncé la tête de toutes ses petites amies. Donc, a priori, il est plutôt du côté de gens qu'aujourd'hui, je ne citerai pas, mais qu'on n'aime pas beaucoup, des chanteurs qui frappent leur moitié. Et en fait, on recompose l'histoire parce qu'on va se dire, voilà, il faut un pur, donc ça sera Brian Jones. Il faut une machine qui se transforme en profit, et ça va être les Stones des années 70. Or, Brian Jones, qu'il a d'original, c'est pas tellement, c'est un bon musicien, mais c'est pas lui qui a fait la principale décomposition des Stones. C'est un mode de vie. Et le mode de vie de Brian Jones, ce qui est très intéressant avec ce groupe, c'est qu'en fait, ce sont les autres qui vont s'accaparer petit à petit sa personnalité. Et finalement, la personnalité de Brian Jones, à travers Anita Pallenberg, va passer sur la personnalité de Keith Richards. Et donc, ça va créer cette espèce de machine androgyne et menaçante qui est les Stones du début des années 70, qui sont pas du tout encore la machine Afrique, mais qui sont encore quelque chose d'assez vivant.
Anita Pallenberg, c'était la petite amie de Brian Jones et qui l'a quittée pour Keith Richards, dont elle est devenue la femme et la mère des enfants d'ailleurs. Hein. Au fond, ce que vous racontez très bien dans Performance, c'est que la pop musique à la fin des années 60, c'était beaucoup plus satanique qu'on veut bien le dire. On regarde ça au fond avec des yeux d'enfant de cœur aujourd'hui. Hein.
Oui, parce que en fait, on a catégorisé comme dans beaucoup de choses, comme dans la sexualité, etc. Donc il y a le rocker sympathique et révolté, il y a le méchant flic, il y a ça, c'est un peu la vision de... En fait, ces gars étaient des voyous quand même, enfin pas les Stones d'ailleurs, c'était plutôt des enfants de la bourgeoisie, mais se comportaient aujourd'hui par exemple, quand on pense qu'ils sortent d'un concert, je sais plus où ça a été, je crois que c'était en Allemagne ou aux États-Unis, ils sortent d'un concert, ils prennent une voiture, il y a les groupies qui montent sur la voiture, ils veulent pas des groupies, ils accélèrent, ils font tomber les groupies en faisant des zigzags, ils en écrasent une ou deux et ils s'en vont, un tenant le volant et l'autre appuyant sur l'accélérateur. Je pense qu'un groupe qui ferait ça aujourd'hui serait jeté, voilà, en pâture aux médias, alors qu'en fait c'était un mode mode de vie. Il y avait une violence, il y avait un manque de respect humain total. On sortait de la guerre et on était, voilà, c'était l'époque des blousons noirs qui était pas loin et on n'était pas du tout dans ce côté, voilà, politiquement correct qu'on impose aujourd'hui aux chanteurs.
Et aux reconstitutions de la vie des chanteurs qu'on
et
nous assène. Merci Simon Liberati, votre Merci. Roman s'intitule Performance. Il vient de paraître chez Grasset. Europe 1.